Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Alizée Niter.
Bonjour.
Romancière, On vous doit l'art de perdre, prix Goncourt des lycéens et l'un des romans de la dernière rentrée, Comme un empire dans un empire. Et voici Je suis une fille sans histoire, un texte pas banal qui explore l'art du récit, comment on raconte une histoire, qu'est-ce qu'une bonne histoire, pourquoi tel personnage nous intéresse, pourquoi sa mort nous fait pleurer. C'est drôle et savant à la fois, écrit à la première personne, la vôtre, et à la deuxième, celle du lecteur. Vous jouez avec des digressions personnelles, des notes de bas de page, vous donner accès à des notions ou des textes difficiles. C'est un peu comme si Umberto Eco faisait du stand-up, en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est une conférence théâtrale que vous avez créée seule en scène il y a quelques mois. Qu'est-ce qui vous a amené là? Qu'est-ce qui conduit une jeune romancière à écrire sur son métier, sur l'art du roman?
Finalement, j'avais l'impression qu'au-delà de moi, romancière, on passe un nombre d'heures hyper important dans des univers fictifs. Et dans ces univers, on se lie d'une certaine manière avec des personnages, on est affecté par certaines formes de récits.
Dans des séries ou au cinéma aussi, pas seulement dans le roman.
Hein. Exactement. À n'importe quel type d'univers fictif, on s'habitue à dire ceci est une bonne histoire, on s'habitue à dire voilà, ceci fait un bon héros. Et toutes ces choses qu'on apprend dans les univers fictifs, on les rapporte aussi dans nos vies pour les appliquer dans le monde social. Donc c'est important pour tout le monde, pas juste pour la romancière que je suis.
Oui.
Et du coup, j'ai eu envie de partager ces outils, mais de les partager d'une manière qui soit un peu moins austère que celle que j'avais apprise à l'université. Que si c'était une conférence, que ça tienne aussi de la gambade. Donc voilà, c'est une conférence gambade.
Et qui permet de donner accès, je le disais, à la poétique d'Aristote, à un texte qui est beaucoup plus accessible et plus connu, celui d'Umberto Eco, je le citais, mais aussi à Roland Barthes. Enfin, il y a beaucoup de gens très savants cités là-dessus. Il y a d'abord une histoire des histoires, vous montrer comment certains stéréotypes ont conquis notre imaginaire depuis la nuit des temps, comment des récits, souvent les mêmes, se sont imposés. Et d'abord, pourquoi sur les murs des grottes, nos ancêtres ont dessiné des chasseurs et jamais des cueilleurs qui étaient pourtant plus nombreux?
Oui, et ça, je m'appuie sur un texte d'une autrice américaine de science-fiction que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas juste autrice de science-fiction, qui est une théoricienne hyper intéressante des nouveaux récits, qui s'appelle Ursula Le Guin. Et dans un texte qui s'appelle « La théorie de la fiction panier », elle dit ça, elle dit « Mais en fait, 65 à 80% de la nourriture humaine était cueillie. Pourquoi on voit que les chasseurs? Pourquoi il y a cette importance de ces types avec des lances, avec des massues, avec des flèches? » Et elle dit, c'est pas parce qu'en fait ils étaient si importants que ça pour nos sociétés, c'est parce que leur histoire avait un pouvoir de séduction que les récits de cueillette n'ont pas.
Parce que cueillir des érelles, ça fait pas une bonne histoire.
Exactement. Je suis une fille sans histoire, c'est aussi un peu une sorte de quête de comment on peut raconter des récits de cueillette sans ennuyer prodigieusement notre auditoire.
Ce qui vous amène très vite à la représentation des femmes dans tous
Bien
ces
sûr.
Récits, puisque la grande majorité des histoires, c'est un homme qui fait des trucs plutôt violents.
Alors c'est ça, et ça c'est un peu le legs que nous a laissé Aristote, et non seulement c'est un homme, mais c'est un homme remarquable. C'est-à-dire on veut que ce soit un homme qui a tellement de capacités exceptionnelles qu'en fait le héros, il est toujours presque un super-héros, tellement il est fort, tellement il vise bien avec son arme, tellement il est persistant, tellement, il est toujours plus proche de Superman que de notre voisin. Et Aristote nous dit, voilà, évidemment, donc ce héros c'est un homme remarquable, ça n'est jamais une femme, ça n'est jamais un esclave. Et donc finalement, ça veut dire aussi que les histoires qu'on a le droit de raconter, les histoires qui sont jugées dignes, elles concernent une minuscule partie de la population, en fait. Elles sont très, très excluantes.
Vous parlez des faits Schtroumpfettes?
Oui.
Parlez-nous des Schtroumpfettes dans romans ou dans les
quiconque
films.
Quiconque a tenu entre ses mains une BD des Schtroumpfs voit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire une histoire dans laquelle il y a un seul personnage féminin dont l'unique caractéristique, c'est d'être une femme,
oui,
face à 100 personnages masculins qui, eux, font des trucs, ont des métiers, ont des enjeux, construisent des choses, etc. Oui. Non, voilà, la Schtroumpfette, c'est juste une femme.
Vous m'avez aussi appris l'existence d'un test redoutable si on l'applique aux grands romans ou films qui nous ont fait vibrer. Le test de Bechdel.
Oui, petit test vraiment très simple, très pratique, qui repose sur trois critères. Premièrement, il doit y avoir deux femmes nommées dans l'œuvre, nommées à l'égal des hommes. Deuxièmement, ces femmes doivent parler ensemble. Troisièmement, et c'est là généralement que ça se corse, Patrick, elles doivent parler d'autre chose que d'un homme.
Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent, mais vous citez aussi des très grands romans dont l'intrigue se résume à « C'est une femme mariée »,
qui tombe amoureuse d'un autre
qui
homme.
Qui était perdu d'amour et qui se jette sous un train ou qui... Enfin bref, voilà.
Voilà, de dire finalement les personnages féminins du corpus canonique, c'est-à-dire des livres qui sont reconnus comme des grands et bons livres qu'on m'a mis entre les mains, que ce soit à la bibliothèque ou à l'école, etc. Bah, les personnages féminins les plus connus, c'est toutes des femmes adultères pour qui ça finit mal. Anna Karénine, Madame Bovary, la princesse de Clèves. Il n'y a que Lady Chatterley qui serait une femme adultère qui s'en sort à peu près.
Pourquoi Umberto Eco pleure à la mort d'Anna Karénine et vous à la mort d'un des personnages du Misérable ?
Eh ben,
des Misérables.
Parce qu'en fait, on se lie. Quand on se lie avec ces personnages, quand on visite un univers fictif, et parce que la fiction n'est pas un mensonge. Ça, c'est la grande thèse d'Umberto Eco qui me touche prodigieusement, où il dit, en fait, finalement, la phrase « Anna Karénine est morte » ou la phrase « Enjolras est mort », elle est vraie dans tous les univers possibles. Au contraire du mensonge, la fiction, c'est une vérité irréfutable. Et donc, bien sûr, cette vérité, quand elle raconte la mort d'un personnage qu'on aime, comme Enjolras, qui était charmant et capable d'être terrible et qui était voilà, cette figure dont j'étais amoureuse, il faut bien le dire, et ben, cette vérité irréfutable, elle me fait pleurer, évidemment.
C'est l'art de la représentation et de l'identification, surtout, qui est une notion, mais qui, enfin, ça va au-delà de l'identification, c'est ce que vous expliquez dans ce texte, Alice Zeniter. Qu'est-ce qu'une bonne histoire ? Qu'est-ce qui fait que « il était une fois » tient ensuite sa promesse ? Votre texte démarre par l'absurde, c'est-à-dire vous commencez par raconter un voyage en train dont on se dit il va se passer quelque chose d'absolument extraordinaire et puis vous coupez là, vous brisez là, comme on dit, pour dire bah non, ça n'a aucun intérêt, mon voyage en train. Il ne s'est rien passé.
Ça montre bien qu'au-delà de la construction d'une histoire que moi, je peux faire comme autrice, en fait, vous, comme lecteur, vous avez aussi un horizon d'attente et un certain nombre de cases qu'il va falloir cocher. C'est-à-dire que quand je commence à raconter mon voyage en train, si je m'arrête, tout à coup, vous allez me dire « Et quoi ? Et il s'est passé quoi ?» Et en fait, vous vous attendez à une certaine mise en récit. On est tous habitués à cette manière de raconter les choses. Et cette mise en récit, elle est complètement différente de l'expérience que moi, j'ai vécu, parce que quand je suis dans le train, je me dis pas que je suis au début d'une histoire. Je me demande pas, oh, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Non, je me contente d'être là et d'être assise dans le train. Et ça, il n'y a pas vraiment de moyen de le raconter, parce qu'on a l'habitude qu'une histoire, ça déroule des actions.
Vous dites d'ailleurs que sur vos deux derniers romans, vous avez tenté, vous avez eu l'envie ou l'ambition de casser l'intrigue, enfin de l'arrêter, l'abandonner au milieu du roman, et que vous n'êtes pas aller au bout de cette envie, de ce désir.
Voilà, je me disais, il y a quand même quelque chose, il y a une forme totalement nouvelle et puis ce sentiment de soif qu'on ne pourra jamais étancher, ça doit être fou de créer ça chez les lecteurs et les lectrices. Simplement, en effet, je suis prise dans un schéma narratif un peu classique et j'ai l'impression qu'une histoire qui lâche son intrigue avant la résolution, c'est comme une blague sans chute et du coup, ça en fait une expérimentation sociale très osée, quoi.
Vous jouez aussi avec votre corps, vous parlez de vos mains, de vos orteils, sur scène vous les montrez, je crois, ces orteils. C'est une expérience de comédienne qui en amènera d'autres, Alice Zeniter ?
Alors, c'est pas exactement une expérience de comédienne, parce que finalement, j'arrive en disant « je suis Alice Zeniter ». Et d'un côté, je suis pas non plus le moi de la vraie vie, mais je suis un peu un moi amélioré. Et donc, il y a une sorte d'expérience de la fiction de moi-même. Aussi, quand j'arrive sur scène, je sais quoi dire, je sais quoi faire, je sais comment expliquer les choses. Je connais pas toutes ces valses, ces hésitations qui sont les miennes dans la vraie vie, ou là même en ce moment à ce micro où j'ai toujours peur de dire une connerie. Oui. Sur scène, j'ai mon texte écrit. C'est un Alice Zeniter un peu meilleur et ça, je l'aime beaucoup. En fait, ces moments où je peux m'arracher à moi sans jamais tout à fait cesser d'être moi. Et oui, j'ai envie de recommencer.
Bon, eh ben, j'espère que ça arrivera très vite. Vous deviez vous produire à Paris et ailleurs, évidemment. Oui. Et puis tout est interrompu, mais ça se produira forcément.
On l'espère.
Donc, je suis une fille sans histoire. Je disais qu'évidemment, c'était une antiphrase. Si, vous êtes
bien
une
sûr.
Fille à histoire, Alice Zeniter, à l'arche pour ce texte très, très amusant et instructif. Merci à vous.
Merci.
Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Le 13h de Christophe Lamarre à suivre, puis La France bouge. Bonne journée.